Ceci est une conversation avec Hélène Lavoie, qui est prospectiviste, spécialiste des incertitudes géopolitiques, des menaces opportunités, et qui a fondé et qui est présidente de The Red Team Analysis Society, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans ces sujets d'anticipation. Donc Hélène et ses équipes aident les organisations étatiques et les organisations privées à se préparer, à anticiper ce qui vient, et à naviguer dans les incertitudes de l'époque politique, géopolitique, grâce à des méthodologies particulières de projection, de scénarios, etc. Donc évidemment, ça m'intéresse de parler avec quelqu'un comme Hélène pour comprendre comment elle travaille, comment elle anticipe, quels sont les outils qu'elle utilise et qu'est-ce qu'elle voit venir. Si cette conversation vous plaît, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me soutenir via un don. Et puis je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter et au groupe Discord pour aller plus loin. Bonne écoute.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismic.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
Bonjour Hélène.
Bonjour Julien.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, me parler un petit peu de votre parcours et de ce que vous faites actuellement?
D'accord, très bien. Alors tout d'abord aussi, merci pour cette interview. Et puis, c'est avec plaisir que je le fais. Donc, je suis chercheur en sciences politiques et en relations internationales depuis environ 25 ans. J'ai un doctorat en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Londres, la School of Oriental and African Studies. Et comme ce qui m'intéressait, c'était contribuer à mon niveau à prévenir les guerres, en fait, je me suis aussi respécialisée dans ce qu'on appelle l'alerte précoce et la prospective stratégique. Donc, la prospective stratégique, pardon, pour les problématiques de sécurité nationale et internationale, conventionnelle et non conventionnelle. Et à l'heure actuelle, donc, je travaille pour The Red Team Analysis Society, qui est un think tank et un cabinet de conseil et de formation que j'ai fondé et qui est spécialisé dans ces problématiques.
Ok, très bien. On va prendre le temps de parler de tout ça, évidemment, et puis on va parler de méthodologie, on va essayer de définir les mots aussi. Tout d'abord, je voudrais commencer par une question classique. Comment est-ce que vous en êtes venu à ces sujets-là et comment est-ce que vous décririez ce que j'appelle les lunettes que vous portez pour regarder le monde? Quels sont les angles de vue que vous privilégiez en quelque sorte et pourquoi?
D'accord. Alors, comment j'en suis venu à ces problématiques? En fait, j'ai vécu au Cambodge et en allant au Cambodge, j'ai découvert l'horreur de ce qu'était le génocide, même si en droit international, on appelle ça maintenant les crimes... Pour le cas du Cambodge, ce sont des crimes contre l'humanité. Mais en ce qui me concerne, je pense que ils ont vécu un génocide. Et donc, j'ai voulu comprendre ce que c'était. Arrivant donc de France, c'était un très gros choc de découvrir la pauvreté, l'horreur, le musée du génocide de Tuol Sleng, etc. Et donc, en rentrant en Europe, j'étais en Angleterre et j'ai voulu comprendre. Voilà. J'ai voulu savoir comment on pouvait éventuellement éviter cela. Et donc, j'ai fait un master en relations internationales, un master en sciences, et puis ensuite, j'ai travaillé pour la Commission européenne, et ensuite, j'ai voulu faire mon doctorat. Donc voilà, donc ça, c'est comment j'en suis arrivée là. C'était un choc émotionnel, donc, au départ. Et alors, les lunettes, je trouve que c'est vraiment une question extrêmement intéressante. En fait, je pense qu'on a plusieurs lunettes, si on peut dire. Donc, parce que quand on pense à des lunettes, en fait, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Donc, si je pense à quelque chose qui influence ma vision et que je peux enlever, donc c'est quelque chose dont j'ai conscience, bien entendu, ça va être lié à mon activité. Donc, je vais avoir tendance à regarder tout ce qui se passe peut-être en termes de danger ou de menace ou éventuellement d'opportunité, comment les choses peuvent se dérouler et m'affecter. Mais ça, c'est quelque chose dont j'ai conscience. Alors peut-être que c'est en fait que peut-être que je suis comme ça initialement et que c'est ça qui a déterminé mon intérêt pour l'alerte précoce et la prospective. Je ne sais pas. C'est de la poule et de l'œuf. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai plutôt conscience. Ensuite, il y a certaines lunettes que j'ai aussi qui sont liées au fait que je suis française, que je suis née dans le nord de la France, sur mon parcours, etc. Et ça, ce sont des lunettes que je vais changer quand j'étudie, enfin, je vais essayer de changer au mieux, quand j'étudie un problème, par exemple, si je regarde la perspective des Chinois sur telle ou telle problématique, ou la perspective des Américains, etc., je vais essayer, alors, toutes choses égales, par ailleurs, en supposant que ça soit possible, je vais essayer de comprendre de l'intérieur les Américains ou les Chinois ou les Russes ou les Tunisiens ou qui que ce soit, pour vraiment les comprendre de l'intérieur et percevoir, avoir leur perception des choses. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant à faire parce que aussi en le faisant, ça vous fait prendre conscience de vos propres biais normatifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de se sentir français, européen, etc. Et ça, c'est pour ça que mon think tank s'appelle the Red Team Analysis Society. C'est l'essence du red teaming, c'est-à-dire on prend le point de vue. Alors dans red team, en fait, c'est l'ennemi, mais là, on prend le point de vue de l'autre. L'autre n'est pas forcément un ennemi, peut l'être, mais il en est pas forcément. Et puis après, je pense que malheureusement, comme tout le monde, je suis soumise à toutes les lunettes, ou plutôt là, sont des choses qui ont été intégrées dans mes yeux, à tous les biais cognitifs qui sont ceux des humains. Et qui sont des erreurs systématiques qu'on fait du fait qu'on est humain dans la façon dont procèdent nos informations. Donc, Hoyer, qui est un chercheur, a identifié un certain nombre de biais, par exemple. Alors, il y a celui de l'évaluation des preuves. Donc, par exemple, on sait que au début, quand on est présenté avec, quand il se passe quelque chose dans le monde et qu'on a très peu d'éléments pour comprendre ce qui se passe, notre cerveau va essayer de faire sens de ces choses, par exemple, et va créer un modèle. Mais évidemment, comme on a très peu d'éléments, ce modèle, il peut être correct ou il peut être incorrect. Eh bien, ensuite, ce qui se passe, c'est que malgré, une fois qu'on a créé ce modèle, on finit par être dépendant de ce modèle, mais sans le savoir. Même s'il y a des preuves qui s'accumulent ou des faits qui s'accumulent et qui montrent que notre modèle est faux, ben, on va quand même conserver cet ancien modèle. Et c'est un phénomène qu'on voit à l'œuvre dans le monde en permanence et dont je suis certainement victime, comme tout le monde. Et les biais, ce genre de biais, les biais cognitifs, on peut essayer de les réduire, d'en prendre conscience, mais on peut pas les enlever. Donc, ce sont pas vraiment des lunettes. Mais voilà. Et donc, ce phénomène de biais, la persistance d'impressions fondées sur des preuves discréditées, en fait, j'aime bien expliquer, enfin, donner comme exemple, par exemple, ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, au début, quand on ne savait pas ce que c'était, il y a beaucoup de médecins ou de personnes qui ont fait une analogie avec la grippe. Or, c'est pas la grippe, c'est un Covid. Et c'était assez fascinant de voir que même quand on avait des preuves qui nous disaient que ça se passait, que le Covid se passait, enfin, qu'il y avait des contaminations aussi pendant l'été ou dans les pays chauds, il restait avec le modèle initial de la grippe. Et il n'arrivait pas à en sortir. Donc ça, c'est un exemple qui permet de se rappeler de ce que c'est et de faire très attention. En fait, quand on crée un modèle et quand on essaye de comprendre quelque chose, d'essayer d'être le plus flexible possible. Voilà, une longue réponse à une question courte et pertinente et intéressante.
Bah, c'est le principe. Hein. C'est pas moi qui vais parler le plus pendant cette heure. Mais c'est intéressant parce que c'est une question que je pose régulièrement au début d'interview. À laquelle j'ai pas mal réfléchi, d'ailleurs qui m'a pris plus de 100 pages dans mon livre, pour expliquer justement pourquoi on pense qu'on pense. Et cette question, et la réponse que vous donnez, en fait, me donne une indication sur la manière dont vous connaissez vos propres biais, dont vous connaissez vous-même, et sur les lunettes que vous choisissez de porter. Oui. Par ailleurs, je n'ai pas souvent une réponse aussi développée, et ça montre bien que vous avez conscience que d'abord que les biais existent, oui. Et que finalement on n'est pas si rationnel qu'on veut bien le croire, qu'on a un passé, qu'on a une culture, qu'on a une langue, et que donc forcément on porte des lunettes qui déforment et teintent la réalité.
Tout à fait.
Donc ça m'intéresse de vous entendre dire ça, parce que c'est quelque chose que j'essaie systématiquement de rappeler, et dont j'essaie moi-même de me rappeler pour me forcer à douter aussi de ce qu'on me raconte et de ce que je me raconte à moi-même. Bref, donc merci pour ça. À quoi est-ce que ça sert de faire de la prospective? À quoi est-ce que ça sert de se projeter, d'essayer d'anticiper ce qui pourrait se produire? Voilà, en fait, comment est-ce que vous définissez la prospective et pourquoi on en fait? Pourquoi on se projette depuis la nuit des temps, en fait?
Voilà, ben, en fait, pour la survie. Tout simplement, je pense que c'est au départ, comme tout être vivant, l'humain est intéressé par sa survie ou c'est un instinct. Et comme l'humain est assez fragile, en fait, si vous comparez peut-être moins qu'une plante, certainement, mais par rapport aux animaux, dans la nature, on est assez fragile. Donc, si on veut survivre, il faut qu'on puisse se prémunir, en fait, des dangers qui vont arriver. Et je pense que, en tout cas collectivement, l'intérêt pour la prospective ou l'anticipation, si on veut faire plus large, provient de là. C'est juste bêtement une volonté de survie. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on fait, la prospective, l'anticipation, tout le temps, dans notre vie courante, sans s'en apercevoir. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Alors peut-être que maintenant, ça se fait quand on commande des repas sur Internet ou en prenant notre téléphone. Mais si vous voulez préparer un repas, par exemple, vous êtes obligé de faire de l'anticipation. Vous allez vous demander pour qui vous faites ce repas. Est-ce que c'est pour vous tout seul, pour votre famille, pour plein d'amis? Et donc, en fonction des gens avec lesquels vous allez partager votre repas, vous n'allez pas préparer la même chose. En fonction de la date, vous allez devoir faire les courses. Vous n'allez pas conserver les aliments de la même façon. Puis ensuite, quand vous préparez votre repas lui-même, vous allez le faire dans un certain ordre, etc. Et tout ça, c'est de l'anticipation. Et si vous vous mettez dans la peau d'un homme des cavernes, par exemple, en plus, il devait aller chasser, je ne sais pas, le bison ou l'auroch. Donc, il fallait qu'il prévoie quand le troupeau allait passer. Il fallait qu'ils aient la bénédiction du sorcier ou du chaman de l'époque, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN, si je puis dire. Ça doit pas être dans notre ADN, mais en tout cas dans notre conscience collective, et c'est la façon de vivre de l'humain, je pense. La survie dépend de l'anticipation.
Moi, j'utilise une phrase souvent pour définir un peu l'objectif de l'anticipation, qui est être capable de répondre demain à nos besoins de demain.
Tout à fait.
C'est cette idée qu'on va toujours avoir besoin de répondre à nos besoins, et donc il faut le savoir, d'une part, quelles vont être les circonstances dans lesquelles on va devoir le faire, mais aussi savoir quels vont être nos besoins, comment est-ce que ces besoins vont évoluer dans le temps. Et souvent, on anticipe assez mal ça, nos propres besoins, l'évolution de nos propres besoins.
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et c'est à la fois simple et compliqué, ça dépend de votre problématique.
Parce qu'en quelque sorte, c'est une double projection, c'est-à-dire qu'il faut non seulement anticiper l'évolution du monde, mais aussi anticiper sa propre évolution.
Exactement. C'est pour ça que c'est difficile. En fait, on peut pas vraiment faire de prospective ou d'anticipation sans prendre en compte le pour qui on le fait.
Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la méthode, parce que ça fait partie vraiment de votre cœur de métier. Mmh. Alors d'abord, le diagnostic. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce qui se joue dans le monde, pour faire le tri entre ce qui est important ou non, pour s'y retrouver entre les différents angles, les différentes disciplines, les différentes opinions, pour repérer les signaux faibles, etc. Comment est-ce qu'on pose un bon diagnostic? Sachant pour certains que ça va être follow the money, suivez l'argent, pour d'autres ça va être la géopolitique, pour d'autres ça va être la politique, pour d'autres encore ça va être les idées, le monde des idées qui prime. Voilà, comment est-ce que vous procédez et est-ce qu'il y a une méthode particulière que vous utilisez?
Alors oui, il y a une méthode qui est assez proche de la méthode scientifique en fait, et qui a été, en fait je construis tout simplement sur ce qui a été fait par beaucoup d'autres personnes, dont en France, Michel Godet, par exemple. Mais la première chose à faire, c'est de poser la question. Si votre question est trop large, en fait, vous n'allez pas pouvoir y répondre et elle ne va pas forcément être pertinente. Donc, il faut, dans votre question, il faut qu'elle soit assez précise. Elle peut être large, mais quand même précise, pour délimiter votre champ. Elle doit être temporalisée, si je puis dire. Est-ce que vous cherchez à anticiper à 6 mois, à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans, à 50 ans, vous n'allez pas faire les mêmes choses ou regarder avec le même niveau de détail une problématique en fonction du cadre temporel. Et elle doit être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, elle doit être aussi faite pour quelqu'un. Alors, on peut dire un client ou un récipiendaire. Mais si vous travaillez, par exemple, pour une société de sécurité dont le seul intérêt, c'est pas un jugement de valeur, hein, de retirer ou de protéger des gens, et si jamais il y a un danger, en fait ils vont évacuer leurs clients, par exemple. Ou si vous travaillez pour un État qui ne peut pas partir annuler un risque et qui a toute une palette de réponses pour une problématique donnée, en fait vous allez pas regarder la même chose, en tout cas pas avec le même niveau de détail. Donc ça, c'est une première chose. Et autrement, il ne faut pas se limiter trop initialement. Vous n'allez pas dire, ah oui, voilà, tout n'est que l'argent, tout n'est que l'idéal, tout n'est que ça. Parce que si vous faites ça, en fait, vous aveuglez vous-même, on en revient aux lunettes, vous vous aveuglez vous-même et vous n'allez peut-être pas voir en fait, la solution qui est juste à côté et qui se trouve dans un domaine qui est autre que celui auquel vous pensiez initialement. Donc, en fait, c'est peut-être là où c'est plus de l'art que de la science. Et en même temps, il faut borner votre champ d'étude parce que vous pouvez pas tout faire. Autrement, il faut reconstruire le monde entier en variables. Ça, c'est pas possible. Mais en même temps, il faut pas le borner trop pour ne pas rater en fait des problématiques connexes, ce qui empêcherait la bonne compréhension de la problématique.
Oui, donc j'imagine que là où il y a de la valeur ajoutée à travailler avec des prospectivistes, c'est qu'on va essayer de trouver des liens qu'on ne voyait pas forcément entre des choses, des liens auxquels on n'avait pas pensé. On va essayer d'ouvrir le champ de vision, c'est-à-dire que souvent en fait les gens sont pris dans leur domaine d'activité, n'ont pas le temps de regarder ailleurs, ont des espèces d'œillères.
Tout à fait, c'est ça.
Ils sont pris dans les bulles aussi d'informations, et donc on va essayer d'ouvrir.
Tout à fait. Et donc, en fait, une fois qu'on a posé la question, qu'on l'a bien définie, on commence tout simplement à lire. C'est généralement, en tout cas, c'est ce que je fais, mais c'est on construit sur la connaissance des autres. C'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Il y a plein de gens qui ont écrit des choses très valables et qui nous font progresser. Et puis, de fil en aiguille, vous allez lire quelque chose qui va vous faire vous poser une nouvelle question en vous disant, ah bah oui, mais tiens, ce domaine, je le connais pas très bien. Donc, vous allez trouver un autre domaine ou une autre problématique et vous allez accroître votre connaissance. Donc, en même temps, donc ça, c'est, mais en fait, c'est pour tout, c'est pas besoin de, enfin, il n'y a pas que dans la prospective, c'est pour toute compréhension d'un phénomène. On devrait faire ça idéalement. Et vous pouvez aussi utiliser YouTube, tous les moyens actuels, mais à ce moment-là, il faut faire vraiment attention à la qualité de ce que vous lisez. Et après, ce qui se passe en prospective, c'est qu'on va identifier les variables et les liens entre les variables pour décrire les processus qui sont sous-jacents au phénomène ou à la problématique qu'on utilise. Et une fois qu'on a fait ce travail, qui est assez intense intellectuellement, on peut utiliser les méthodes assez nouvelles. Donc, si on utilise, moi, ce que j'utilise, c'est les logiciels de visualisation de réseaux sociaux. En fait, ce sont des graphes, hein, ça se rattache aux mathématiques. Et à partir de là, on va pouvoir identifier des variables qui sont clés ou qui sont des variables d'enjeu. Et à partir de ces enjeux, on va pouvoir faire des scénarios, par exemple. Ou alors, si on n'a pas envie de faire des scénarios, on peut utiliser notre graphe pour identifier un certain nombre de solutions. Et on peut aussi utiliser notre graphe pour faire de l'alerte précoce. Voilà.
Oui, puis il y a aussi cette idée de travailler sur des scénarios, des probabilités, puisqu'évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, par définition. On ne peut que regarder ce qui se joue au présent et estimer les probables. Et donc, on va faire ce travail de bien regarder, de bien juger, de bien sous-peser les différents types de scénarios et leurs probabilités. Et puis après, l'avenir nous dira qui avait raison et qui avait tort. Mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se fait une idée juste, autant que possible, de ce qui met les choses en mouvement, justement pour pouvoir faire ces scénarios, pour pouvoir faire des probabilités? Comment est-ce qu'on établit, en quelque sorte, moi, ce que j'appelle les règles du jeu, qui peut nous aider à comprendre, à décrypter pourquoi ce qui arrive, arrive. Et comment est-ce qu'on fait ensuite pour tirer les fils à partir de ça, c'est-à-dire essayer d'imaginer ce qui pourrait advenir à partir de ce qu'on comprend du jeu au présent.
Alors, en termes de politique, les règles du jeu sont, c'est la, enfin, comme en termes humains aussi, même si on l'a oublié, c'est la survie. Donc, c'est l'intérêt national. D'une part, c'est l'intérêt national, et au niveau systémique, le système est composé d'entités politiques qui sont pour l'instant les États modernes, qui interagissent dans une anarchie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'instance supérieure. Voilà. Donc, les règles du jeu, pour l'instant, enfin dans le système dans lequel on vit actuellement, ce sont celles-là. Et elles sont, on a les principes de souveraineté, d'indépendance et de territorialité qui régissent les interactions entre États. Et à partir de ces règles du jeu qui sont assez vastes et assez larges, en fait, vont se décliner en fait toutes les interactions entre États. On peut aussi, il peut y avoir de la coopération, il y a des comment les normes sont construites, enfin il y a beaucoup de niveaux en fait de compréhension, mais qu'il faut tant que faire se peut intégrer justement dans nos modèles, dans nos graphes. Il faut les connaître et prendre en compte que, par exemple, les idées, vous parliez des idées, en fait, sont aussi des normes qui agissent au niveau international. Donc, comment ça se passe, comment elles sont créées, comment elles évoluent. Il faut le prendre en compte et ça peut se faire avec quelques variables ou beaucoup de variables en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Donc, ça, c'est vraiment, et avant tout ça, j'ai oublié, il y a la planète sur laquelle on vit. qui est fondamental puisque notre environnement, voilà, c'est le contexte géographique et écologique en fait va être fondamental et c'est certainement en fait ce qu'il faut regarder avant les règles du jeu parce que ça va avoir un impact tellement immense sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qu'on pourrait faire, sur tous nos objectifs qu'il faut surtout pas l'oublier. On a eu tendance certainement à beaucoup trop l'oublier dans le passé. Et tout ça, ça peut être modélisé, ça peut être intégré. Alors sur la question, donc qu'est-ce qui est le plus important? Ben au départ, en fait, vous ne savez pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas être stressé quand on fait une analyse, quand on démarre une analyse, parce qu'il ne faut pas être victime de ce qu'on appelle le phénomène de besoin de fermeture, the need for closure en anglais. Plus vous êtes stressé, plus vous avez un besoin de réponse immédiate. Donc, plus vous êtes relaxé, en fait, plus vous allez pouvoir suspendre le temps entre la question que vous vous posez, donc l'hypothèse, et la réponse. Et ça vous donne le temps de chercher correctement et de faire un modèle et d'avoir une compréhension correcte. Donc, c'est assez important de prendre en compte ça. Donc, si vous êtes très stressé ou si vous êtes sous l'effet d'une crise, eh bien, en fait, c'est pas forcément le bon moment pour commencer votre analyse. Il vaut mieux l'avoir faite avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important en termes de prospective, c'est qu'il vaut mieux ne pas attendre que la crise frappe pour commencer à vous poser la question. Là, vous êtes dans un cadre cognitif, si on peut dire, qui est pas idéal. Et donc, il faut attendre et c'est seulement une fois que vous aurez votre modèle aussi précis et développé que possible et adéquat, que là, vous allez pouvoir voir émerger des choses qui vont peut-être être surprenantes, auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Et vous allez voir que certains éléments, en fait, de votre modèle peuvent être plus importants que ce que vous ne pensiez. Et puis, ils peuvent être plus importants parce que peut-être qu'ils n'ont pas un impact direct immense sur des problématiques qui vous semblent très importantes en termes d'intérêt national ou de sécurité, etc. Mais par contre, cet élément, en fait, est ce qui permet la contagion entre différents domaines. Donc, si vous voulez vous poser, si vous vous demandez trop tôt et si vous vous arrêtez trop tôt dans votre analyse en disant, bah voilà, je vais regarder que ça parce que c'est ça qui est important, en fait, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher de voir d'autres choses qui auraient peut-être été plus pertinentes en termes de réponse ensuite ou aussi en termes d'alerte où vous vous dites, bah tiens, si cet élément est impacté, oh là là, ça veut dire que mon problème ne sera plus juste financier, mais il va très rapidement devenir un problème d'approvisionnement électrique, par exemple. J'en sais rien, je dis ça au hasard.
Voilà, donc on se plante notamment parce qu'on a du mal à visualiser les liens entre les choses et quels peuvent être justement ce qu'on va appeler les effets domino qui fait qu'une chose va en entraîner une autre, etc. Il y a autre chose dont il faut qu'on parle, ce sont ce qu'on va appeler les signaux faibles, c'est-à-dire ces petites choses qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est autre chose?
Voilà. Alors le signaux faibles, c'est un peu différent. Ça part du même principe, si je puis dire. Mais le signal faible, d'abord, on a un signal. La force de votre signal va dépendre de votre problématique et le choix du signal aussi. Donc là encore, il faut en fait se souvenir de pourquoi on se pose la question. Et donc là, en fait, on a généralement un modèle imparfait et implicite dans la tête, et on va essayer de trouver, comme vous le disiez, des choses qui pourraient annoncer de façon faible quelque chose qui va venir plus tard. Alors, la difficulté qu'il y a aussi dans l'histoire des signaux faibles, c'est que ça dépend, la force du signal va dépendre de la perception. Pour moi, qui suis tout le temps en train de lire ou qui suis plongé dans les idées de menaces, par exemple de changement climatique ou de guerre, etc., un signal peut être fort. Parce que je me dis, oh là là, ça va forcément, parce que si je connais une suite dynamique, je me dis, oh là là, ça annonce quelque chose de pas bien. Mais pour quelqu'un qui a pas forcément le même prisme et la même connaissance ou le même intérêt, ben en fait, ce signal, il est très faible. Ou il va rien vouloir dire du tout. Ah, donc c'est un peu la difficulté.
Oui, d'où l'importance de travailler aussi, avoir la bonne information.
Aussi.
Et c'est aussi par là que ça pêche souvent. Pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit, je voudrais qu'on essaie d'aller regarder sur un exemple que vous avez en tête. Moi, celui que je cite souvent en conférence, c'est le cas de l'Afghanistan, où typiquement, il y a une vraie erreur d'anticipation, où on n'avait pas vu venir le fait que les talibans pouvaient descendre des montagnes et reprendre Kaboul aussi vite. Donc soit les Américains ont péché par un manque d'informations ou par une incapacité à établir des liens entre les sujets ou à prévoir comment les choses pouvaient évoluer, comment un signal faible pouvait devenir beaucoup plus fort. Voilà, donc on peut parler de l'Afghanistan ou d'un autre exemple que vous avez en tête, que vous préférez, pour démontrer ou pour illustrer comment un défaut d'anticipation peut avoir des conséquences énormes.
Alors, je ne peux pas répondre sur l'Afghanistan parce que je ne connais pas assez bien le sujet. En fait, j'aurais dû préciser que en prospective stratégique et en alerte précoce, ce qu'on cherche à prévenir, c'est pas la menace. C'est la surprise. Ce qui est intéressant, c'est d'empêcher les surprises stratégiques. Alors, des surprises stratégiques, malheureusement, on a beaucoup. Et c'est aussi grâce à toute la littérature qu'il y a sur l'étude des surprises stratégiques ou des échecs d'alerte qu'on peut aussi progresser et créer des systèmes qui fonctionnent. Donc, la première, enfin, qui est référencée en tant que telle, c'est Pearl Harbor. Donc, Pearl Harbor, bah, les Américains, même s'ils avaient eu l'information, n'ont pas vu venir puisque il y a eu Pearl Harbor. Plus récemment, on peut prendre la montée de l'État islamique qui n'a pas été par la plupart, enfin, la plupart des, dans les informations non classifiées et ouvertes, et de services de renseignement, en supposant qu'ils donnent, enfin, je parle vraiment du non classifié, hein, puisque j'ai pas accès au classifié, où beaucoup d'États, en fait, n'ont pas vu venir cette menace. Vous avez le Covid. Alors que pourtant, on a travaillé sur les pandémies et ce qui se disait dans le monde des menaces non conventionnelles, là, en termes de sécurité nationale ou internationale, on savait qu'il y aurait des pandémies, qu'il y aurait une pandémie. On l'a pas du tout, anticipé, et quand elle est arrivée, on ne voulait pas le croire. Enfin, beaucoup ne voulaient pas le croire.
Oui, je cite souvent cette conférence TED donnée par Bill Gates, je crois, en 2017, où il parle de la prochaine pandémie de Covid, qu'il recommande de commencer à anticiper parce que, apparemment, nous n'étions pas prêts.
Ah, c'est ça. Par exemple, enfin, plus proche de l'Europe, par exemple, le Brexit, alors que là, c'était vraiment facile de l'anticiper. Hein, est arrivé pour beaucoup comme une grande surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les printemps arabes. Les printemps arabes sont considérés comme une immense surprise stratégique. Alors là, pour les printemps arabes, en fait, il semblerait qu'un certain nombre d'ONG, il y avait eu un post-mortem qui a été fait, l'avaient vu venir. Alors je pense que là, l'explication est assez simple. C'est une erreur de type d'analyse. C'est souvent les gens qui font des analyses politiques se contentent de regarder ce qui se passe au niveau des élites et ils oublient en fait que ben en fait il y a un peuple aussi. Et ce qui compte pour comprendre l'évolution d'un pays, c'est aussi de regarder l'interaction entre les élites, le gouvernement, entre les différents acteurs et le peuple. Et si on avait perçu, alors c'est facile hein, avec le recul de le dire, mais si on avait vraiment regardé ces interactions et comment elles évoluaient, et aussi dans le cadre mondial, avec les problèmes d'approvisionnement en nourriture, en fait là probablement ça aurait été plus facile de le voir venir. Voilà. Ce sont quelques exemples de surprises stratégiques. Alors, je suis désolée sur l'Afghanistan, j'essaye d'être prudente. Et généralement, quand on commence à étudier un sujet, on s'aperçoit qu'en fait, il y a tellement de ramifications que c'est difficile de pouvoir répondre sur tout, quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on essaie souvent d'expliquer les choses avec une seule cause fondamentale. Et parfois, il y a débat sur ces causes, mais bien souvent, c'est un ensemble de paramètres, un ensemble de causes profondes qui font qu'un événement émerge. Et après, évidemment, c'est toujours plus facile a posteriori d'essayer de comprendre d'où ça vient, mais encore faut-il s'en donner le temps pour essayer justement d'en tirer des leçons.
Tout à fait.
Ce qui m'amène à une prochaine question qui est liée à l'histoire et à l'importance de bien connaître l'histoire et de bien connaître les mécaniques du présent pour comprendre ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que au-delà des constats qu'on peut faire et qui peuvent être débattus et qui sont souvent débattus sur les enjeux actuels, ce qui va être pertinent, c'est de comprendre d'où les choses viennent, d'où les tendances et les événements émergent. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on se trouve aujourd'hui collectivement confronté à une crise écologique majeure ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la résoudre ? Pourquoi est-ce que, inévitablement, on assiste à un retour de la guerre ? Pourquoi est-ce que on a une espèce d'accélération technologique ? Pourquoi on a les pandémies qui reviennent ? Pourquoi on n'a pas vu venir le Covid, etc., etc. ? Moi, c'est un sujet personnellement qui me passionne, que l'histoire. notamment parce qu'il y a toujours des enseignements à tirer, des événements passés, des erreurs passées, des événements qui se sont produits, puisque quand on va regarder sous les événements, on se rend compte qu'ils ne proviennent pas de nulle part, qu'il y a tout un tas de circonstances, un tas de dynamiques qui font que quelque chose arrive. Il y a comme des ingrédients, en fait, qui sont là. Il y a des mécaniques, finalement, qu'on retrouve tout le temps. D'ailleurs, ça nous fait dire parfois que l'histoire se répète. Quels sont, selon vous, ces ingrédients de base, ou ce qu'on va appeler en anglais les first principles, les principes premiers, les principes de base qui font l'histoire et qui peuvent expliquer que l'humanité est là où elle est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, selon vous, voilà, des grands principes que vous avez en tête et que vous utilisez dans vos analyses et qui vous aident à vous, à la fois, à comprendre le passé, le présent et donc à vous projeter?
Alors, tout d'abord, sur l'histoire, je suis tout à fait d'accord avec vous, et même sur la période longue, qui est une spécialité normalement française, c'est quelque chose qu'on considère plus. Alors, je sais quand j'enseignais à Sciences Po PSIA, mes élèves qui de master me disaient, enfin quand je leur parlais de quelque chose qui avait lieu en gros avant l'an 2000, j'avais l'impression de parler de quelque chose de très ancien. Et donc on a complètement perdu la profondeur de champ historique, ce qui est bien dommage, mais il faut absolument la retrouver parce que c'est que comme ça, je suis complètement d'accord avec vous, qu'on peut comprendre l'évolution des sociétés, des systèmes politiques, etc. Et quand je dis sur la longue période, je pense qu'il faut regarder sur au moins 1000 ou 2000 ans, pas juste sur 100 ans. Donc, ce qui pose après un problème de connaissance, c'est comment on fait pour avoir toute la connaissance, une personne. Donc, il vaut mieux faire des workshops, il faut lire, etc. Donc, du coup, j'ai oublié votre question. Ah oui, les principes fondamentaux. Je ne sais pas si j'ai vraiment des principes fondamentaux. Ce que je fais, en fait, quand j'analyse un problème, donc outre lire, et j'essaye de reprendre le problème à la base, de me dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça serait si c'était juste une tri-la-tribu d'un homme préhistorique? Voilà, j'essaye de simplifier au maximum le système pour avoir une première représentation des dynamiques. Alors évidemment, je fais ça parce que j'ai été aidée par tout ce que j'ai lu et par tout mon travail. Mais donc, comme on le disait tout à l'heure, l'homme, au départ, il est fragile ou il est vulnérable dans la nature. Donc, il va essayer de s'en protéger. Donc, il va vivre à plusieurs. Il va vivre en communauté. Enfin, ou en tout cas en société. Et qui dit vivre en société dit qu'il va y avoir généralement une autorité politique, enfin ce qu'on appelle une autorité politique, mais il va y avoir quelqu'un qui va prendre des fonctions de dirigeant. Donc ça, c'est le début du gouvernement. Mais ce dirigeant, en fait, les gens dans la tribu, ils vont le rendre ce dirigeant responsable pour un certain nombre de choses. Donc le chef va devoir les protéger des ennemis extérieurs, de disputes à l'intérieur, et puis il va devoir les aider à manger et avoir de l'eau, par exemple. Donc ça, c'est les besoins de base de Maslow. Et en fait, vous allez avoir plusieurs sociétés comme ça. Et les sociétés, en fait, vont se rencontrer, elles vont s'entraider, c'est de la coopération, ou elles vont pouvoir, si elles sont pas d'accord et si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, et ben en fait, elles vont se battre. Donc voilà, donc là, on a vraiment un modèle très, très simple, très, très basique, très schématique de comment les sociétés fonctionnent. Et de ce modèle basique, je vais me poser la question, je vais me dire, ah oui, mais tiens, alors pour nous, comment ça a évolué? Donc voilà, donc oui, mais alors si jamais mon chef, le chef de ma tribu, ne me donne pas ce que je veux, qu'est-ce qui se passe? Alors on se rebelle ou en fait il va perdre de la légitimité. Mais pour qu'il puisse faire tout ce travail que j'ai délégué au chef, comment il fait tout seul? Ben en fait, il va avoir besoin de gens autour de lui qui vont travailler avec lui. Donc ça, c'est le début, c'est un proto-État. Ce sont les adjoints du chef qui vont travailler pour lui. Ah oui, mais s'il veut s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui se disputent et qui se tapent et qui se tuent dans la tribu, ben en fait, comment va-t-il faire? Ben, il va faire qu'il va avoir le monopole légitime des moyens de violence. Mais si le chef, ou si le gouvernement, donc, n'assure pas toutes ces fonctions qui sont le fondement de ce qu'est un chef ou une autorité politique, eh bien le peuple, donc ceux qui sont dirigés, en fait, ne vont plus lui reconnaître son droit à être chef. Donc il va plus être légitime. Et on peut partir à partir d'un d'un modèle très simple, enfantin, on peut reconstituer progressivement toute la complexité de notre monde, et ça, ça aide ensuite à avoir un bon modèle qui fonctionne. Voilà. Donc, c'est en gros...
Oui, parce que finalement, en fait, on peut considérer qu'on est sur les mêmes ingrédients de base depuis le début de l'histoire humaine, en particulier depuis le début de l'histoire de la civilisation. Moi, d'ailleurs, c'est ce que vraiment j'essaie de synthétiser dans mon livre, d'essayer de comprendre quelles sont ces règles du jeu et quels sont ces ingrédients. Parce que tant qu'on ne les comprend pas bien, on a des défauts d'anticipation.
Tout à fait.
Je voudrais faire un petit détour par un de vos articles récents, puisque vous écrivez, sur précisément les mécaniques de la civilisation, avec et qui s'intitule « How to build a new civilization », dans lequel vous parlez du travail d'Arnold Toynbee. Est-ce qu'on peut en dire deux mots, déjà parce que vous avez choisi d'écrire là-dessus, et que c'est surtout un énorme travail qui a été réalisé par ce penseur, qui est souvent méconnu, et qui peut nous apporter certains éclairages.
Alors, je vais situer dans son contexte. En fait, cet été, ça fait longtemps, puisque je travaille avec Jean-Michel Valentin, donc qui est spécialisé dans les problèmes de changement climatique et que vous avez interviewé. Et moi, j'ai travaillé avec le département de l'énergie américain sur ces problématiques. Donc, ça fait longtemps que je suis intéressée par le changement climatique et ses conséquences. Et je dois avouer qu'au fil des années, je suis parfois un peu déprimée de voir l'évolution des choses. Et donc, je me pose les mêmes questions que vous, je me dis comment va-t-on pouvoir se sortir de cette impasse, de ce qui ressemble pour l'instant à une impasse. Et je ne sais plus comment, en fait, je suis tombée, étant éduquée en Grande-Bretagne pour mon doctorat et mon master, j'avais toujours entendu parler de Toynbee, le grand historien, mais j'avais, comme pour beaucoup de choses, j'avais jamais eu l'occasion ou le temps de le lire. Alors, j'ai pas lu, comme il a écrit, Une histoire des civilisations en 12 volumes. Je le reconnais, je n'ai pas lu les 12 volumes. Mais par contre, il y a une version courte en 2 volumes, dont j'ai lu le premier. Et en fait, ça m'a, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, mais voilà, c'est formidable. Lui, il a regardé ce qui se passait quand on est confronté, ce qui se passait au niveau des civilisations et comment on fait justement pour se sortir de ce genre d'impasse. Alors, il n'a pas forcément écrit pour ça, mais j'ai trouvé qu'il a amené quelque chose de nouveau. Alors, je sais que, il y a beaucoup de controverses, d'après ce que j'ai lu, sur son œuvre, parce que, il a commencé à écrire pendant l'entre-deux-guerres, donc il y avait moins de connaissances. Et, le fondement et la réflexion est tout à fait passionnante. Et donc, il commence par dire que des civilisations, donc au fil du temps, vont avoir tendance à devenir statiques. Donc, ils regardent l'évolution des civilisations antiques, pourquoi certaines se sont créées, pourquoi certaines ont duré, comment, ce qu'elles ont réussi à faire, etc. Et donc, il comprend des civilisations, donc au fil du temps, ont tendance à devenir statiques, mais pour devenir plus élevées, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient confrontées à des défis qui soient suffisamment fort pour les sortir en fait de leur état statique en fait sclérosé, mais pas trop fort pour les détruire. Donc j'ai trouvé que cette approche était très intéressante et ça montre que le défi n'est pas forcément quelque chose de mauvais tant qu'il n'est pas trop fort, parce qu'évidemment si on passe à plus 8 degrés sur la planète, je suis pas sûr que le défi soit pas trop fort pour nous. Mais un défi comme celui qui est énorme auquel on fait face pour le changement climatique, ça peut être justement une façon de renouveler les civilisations humaines qui peut être extrêmement intéressante. Et donc, ça redonne de l'espoir. Et ensuite, donc, il ne fait pas qu'expliquer ça. Après, il continue en se posant la question de savoir comment on génère une réponse correcte pour un stimulus qui est dans ce qu'il appelle the golden mean, enfin dans le juste milieu. Et là, il donne des choses, enfin il explique des choses qui sont tout à fait passionnantes en disant que il faut qu'il y ait un groupe créatif. Alors le groupe créatif, c'est quelque chose d'assez vaste. Hein. Ça peut être un pays, ça peut être un groupe d'individus, etc. qui va devoir se retirer de la société justement pour imaginer en fait la solution qui va pouvoir répondre à ce problème. Donc, il prend à un moment l'exemple de l'Italie dans le monde médiéval qui, d'après lui, s'est retiré des combats médiévaux et ça a permis de donner la Renaissance, Quattrocento, etc.
Donc ça veut dire se retirer du jeu présent et d'essayer d'en inventer un autre à côté.
Voilà, c'est ça. Parce que si on continue dans le jeu présent, en fait, et il me semble qu'il a tout à fait raison, en fait, on est soumis à des pressions de la vie de tous les jours, etc. Et donc, on ne peut pas avoir la liberté de créer de façon complètement indépendante. Et une fois que ce groupe créatif a compris, ou a eu une idée, ou a imaginé un nouveau système, là, il faut qu'il revienne dans le jeu. Alors, évidemment, il faut qu'il soit bien positionné, en fait, pour pouvoir ensuite véhiculer ses idées. Et pour que les idées soient adoptées, alors là, il précise pas en fait que ce sont des élites, mais on finit par déduire de son travail qu'en fait ce sont quand même des gens qui sont positionnés assez haut dans la société, et le reste du peuple qui n'est pas créatif, alors je sais que ça va pas être très politiquement correct de dire ça, en fait va copier par mimésis en fait ce que ceux qui ont la bonne idée. Donc ça, c'est sur le processus de créativité. Alors, il précise aussi que généralement, ceux en charge des pays ou des groupes, etc., et qui sont là parce qu'ils ont eu les idées créatives précédentes, sont généralement pas ceux qui vont avoir les idées pour le futur. Donc, ce qui pose des problèmes. Et s'ils ont pas les idées pour le futur et qu'ils sont plus vraiment créatifs, à ce moment-là, ça devient juste des groupes dominants qui vont régner par la force, mais pas par l'imagination. Voilà. Et j'ai pas encore écrit le troisième article, qui est la fin, c'est comment on se sépare si vraiment la civilisation ne se renouvelle pas. Il peut y avoir un groupe qui se sépare de sa civilisation, qui veut en créer une autre à côté, donc j'ai pas encore fait cette partie. Ça sera à venir. Et aussi, il a un point qui est très intéressant dans notre société hyper technologique, c'est il dit, la technologie n'est pas généralement la solution au défi. Et j'ai trouvé que c'est tellement contre-intuitif par rapport à la façon dont on a tendance à vivre et dont on a tendance à tout penser de nos jours que j'ai trouvé ça évidemment très intéressant. Et donc, il le prouve avec des exemples historiques.
Et c'est quoi? Ce sont des nouveaux types d'organisations?
Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est exactement ça. C'est qu'il faut se tourner vers soi, vers l'intérieur. Alors, il appelle ça le processus d'éthéralisation. Il faut se tourner vers l'intérieur et il faut changer qui on est. Enfin, qui on est, pas complètement, mais il faut se réinventer de l'intérieur, tout en, bien entendu, conservant les racines de ce qu'on est, parce qu'on peut pas complètement se changer. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser la technologie, que la technologie n'est pas utile, etc. Mais c'est vraiment une réflexion sur soi, sur sa civilisation et sur comment on peut l'améliorer ou comment on peut la changer pour répondre à ces défis. Et j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait passionnant, tout à fait intéressant, et que ça donnait beaucoup d'espoir aussi par rapport au monde actuel. Et aussi, ce sont des processus qui sont très longs. Alors nous, on n'a peut-être plus tant de temps que ça, il va falloir qu'on bouge. Mais
il y a plein de spécificités liées à notre époque qui font qu'elle est particulière, notamment le fait que c'est la première fois qu'on a une civilisation au monde, alors que d'habitude, on avait des civilisations qui étaient les unes à côté des autres, avec des liens certes, mais qui se développaient un peu en parallèle. C'est la première fois aussi qu'on arrive à ce point où on détruit en quelque sorte notre terrain de jeu. Donc les défis évidemment ne sont pas les mêmes aujourd'hui que ceux d'hier, mais c'est toujours intéressant d'aller regarder quels sont les ingrédients en quelque sorte de la soupe historique. Et donc ce sont des questions essentielles et passionnantes. Et je voudrais rester un petit peu là-dessus et parler de cette idée que la quête de puissance fait partie de ces principes fondamentaux, de ces dynamiques fondamentales depuis le début, et en quelque sorte au centre du jeu. C'est notamment un de mes invités, Richard Hedberg, qui avait écrit un livre là-dessus qui s'appelle Power, et qui nous expliquait donc à quel point cette recherche de croissance et de pouvoir était un des moteurs de la vie, même de la civilisation. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi cette idée qu'on a des peurs profondes, des besoins primaires à satisfaire, et que c'est ça aussi qui conditionne nos actions. Il y a aussi cette idée de jeu de rapport de force. Enfin voilà, ce sont des idées que j'ai un petit peu explorées moi-même de mon côté, et je voudrais en parler avec vous en fait pour finir. Est-ce qu'il y a d'autres principes fondamentaux que vous avez en tête, d'autres ingrédients dont il faut qu'on parle pour finir là-dessus?
Bah, c'est certain que oui, de toute façon, il y a des rapports de force. Et il peut y avoir des peurs. Et en fait, il y a plein de couches de phénomènes qui vont s'ajouter à ce que je pense est quand même le fondement, qui est la survie. Et il peut y avoir plein de perversions, entre guillemets, ou de traumatismes au niveau collectif qui vont... On parlait des lunettes tout au début de notre entretien. Il peut y avoir des traumatismes, et notamment les génocides en sont, qui vont créer au niveau collectif des visions spécifiques. De toute façon, au niveau... C'est ça, sans aller dans les traumatismes, les normes qui font qu'une société est une société, en fait, sont construites historiquement. Donc, on a tous les lunettes qui nous affectent au niveau collectif. Et ça, pour moi, sont des choses extrêmement puissantes. Alors, sur le pouvoir corrompt, ou c'est la quête de puissance, etc., je suppose que certaines personnes ou certains humains vont être proies à ce genre de recherche de puissance. Ça fait partie de l'humain. Et donc, il est probablement utile qu'il y ait un contre-pouvoir c'est vraiment une bonne question, qu'il y ait un contre-pouvoir à cette dérive ou au fait que ça devienne trop une dérive. Dernièrement, en fait, j'étais en train de me poser la question, enfin une question à peu près similaire, et je me demandais, alors c'est vraiment une hypothèse et une question, si, qui est extrêmement politiquement incorrect en France, si le fait de se séparer d'un système spirituel, en fait, n'est pas problématique en soi. C'est-à-dire que est-ce que justement ce qui garde le gouvernant ou les gouvernants hein, de partir de trop dans la quête de puissance personnelle, quelque chose à la Caligula ou à la Néron, un truc comme ça, ce n'est pas justement la peur d'un au-delà où il ne serait pas pardonné. Si vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est extrêmement puissant, il a tout ce qu'il veut, ou elle, hein, elle a tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, ou il a tout ce qu'il veut, il a la puissance, l'argent, etc. Donc, qu'est-ce qui va l'empêcher, en fait, de devenir effectivement un tyran terrible? Son cœur, alors ça, c'est difficile, mais sont aussi les valeurs morales. Où sont les valeurs spirituelles? Mais vraiment, ce sont vraiment des questions. Là, on est vraiment dans la philosophie et je me pose la question. J'ai pas vraiment de réponse. J'ose me poser la question, même si on va me dire que c'est pas bien.
Cette thématique de la puissance dans la conversation, c'est que moi, elle me paraît essentielle. Et une chose aussi qui est intéressante de remarquer, c'est que dans pratiquement toutes les cultures, il y a eu des formes de mécanismes de limitation de la puissance.
Voilà, c'est ça.
Soit moraux, soit éthiques, soit en établissant justement une espèce de rapport de force, d'équilibre entre l'Église et le roi, par exemple, avec l'un limitant la puissance de l'autre, etc. On peut aussi constater aussi qu'il y a des histoires, des récits qui ont été mis en place qui font que on ne va pas vouloir remettre en question le pouvoir existant, qu'on ne va même pas en avoir l'idée. Quand on dit par exemple que le pouvoir d'un roi lui provient de Dieu, pareil évidemment pour le clergé. Donc il y a tout un tas d'outils qui ont été mis en place pour limiter l'ambition de ceux qui n'ont pas le pouvoir, en disant qu'elle appartient naturellement à certaines personnes.
Il y a ça aussi, mais ça va dans les deux sens. Donc nos réflexions sont allées dans le même sens. C'est assez intéressant comme problématique.
Sujet à creuser dans un prochain épisode,
sûrement. Tout à fait.
Alors je voudrais qu'on passe à la situation actuelle et qu'on essaie aussi de se projeter. Donc on a bien pris le temps de poser les bases, un peu la méthodologie. Donc sur fond de crise écologique et de dérèglement climatique, on a un certain nombre de tensions géopolitiques, et puis on a des enjeux énergétiques d'un genre nouveau, on a des technologies exponentielles d'un genre nouveau aussi, des modèles démocratiques en crise, etc. Donc il y a évidemment plein de sujets qui s'entrechoquent et on ne peut pas parler de tout, mais j'aimerais qu'on parle des points qui, selon vous, sont les plus importants. Qu'est-ce qui est en train de se passer devant nous? Comment est-ce que vous prenez les choses? Comment est-ce que vous dressez le tableau, que vous identifiez les grandes lignes de faille ou les pièces du puzzle les plus importantes, selon la métaphore qu'on veut filer?
Alors, je pense que vraiment le plus important, c'est le changement climatique. Parce que si on détruit notre environnement, la base et le substrat de ce qui nous permet de vivre, c'est fini. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... tout le monde devrait être en train de travailler
game
dessus.
Over.
Voilà, c'est ça, game over. Et là-dessus, ensuite, l'énergie et l'eau sont des éléments absolument vitaux, puisque sans eau, on va vivre 3 jours en tant qu'humain, donc je crois. Donc voilà, s'il n'y a plus d'eau, c'est fini. Et l'énergie, c'est aussi fondamental pour notre survie. Voilà, donc ça, c'est trois éléments qui sont clés. Ça, on peut pas... Et dans l'énergie, je mets la nourriture. Hein. Donc, puisque quand on ingère de la nourriture, en fait, c'est de l'énergie qu'on prend. Et plus on va détruire une des évolutions possibles, c'est plus on détruit, plus notre environnement devient hostile. Eh bien, moins on va avoir, on va pouvoir respirer, moins on va avoir d'eau, moins on va avoir d'énergie. Et donc ça risque de générer, puisque les gens, les personnes, les individus et les sociétés, en fait, vont chercher à survivre. Ça risque de générer un Mad Max, une vie à la Mad Max, absolument horrible. Ce que j'aimerais ne pas vivre. Mais voilà, je pense que personne n'a envie de vivre ça, enfin, sauf peut-être des gens un peu bizarres. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors là-dessus, il y a aussi l'évolution. Alors après, du système international et du système politique, où on passe, on voit la montée de la Chine et où les Américains ne le voient pas d'un bon œil, pour le moins, qu'on puisse dire. Et donc ça crée une instabilité où on est passé du monde bipolaire, en fait, de la guerre froide, au monde multipolaire, enfin, au monde unipolaire, ça dépend comment on le voit. Je pense qu'il était plutôt unipolaire juste après, et un monde peut-être multipolaire, mais en tout cas un monde où les Américains ne seraient plus le premier super pouvoir, et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux. Donc, en même temps, ils reconnaissent, si vous lisez leurs documents, en même temps, ils reconnaissent que le monde est multipolaire, mais en même temps, compte tenu de leur compréhension d'eux-mêmes et du monde, voilà, ils ne peuvent pas l'accepter. Et ça lie avec ce que vous disiez sur la démocratie. C'est en fait toute cette histoire de fin de l'histoire, si on peut dire, de Fukuyama, la fin de l'histoire et le dernier homme, proposer comme idée que voilà, on avait atteint la fin des temps parce que c'était le modèle de démocratie libérale, alors soi-disant occidentale, mais en fait américain, qui avait gagné, et voilà, on ça serait tout. D'où la surprise avec les guerres, etc. Mais bon, c'était penser naïf, que oui. voilà, c'était un peu naïf. Oui, c'était un peu bisounours, c'est un peu naïf.
Alors, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps maintenant sur l'idée d'organisation des sociétés, qui est évidemment un élément fondamental, et sur le fait qu'on entend souvent dire, en ce moment, que les démocraties sont de plus en plus en crise. Et de fait, on est sorti de cette croyance qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années, qu'il y avait une espèce de mécanique, comme un mouvement inévitable, presque comme une loi naturelle, comme le sens de l'histoire, un mouvement de l'autoritarisme vers les démocraties. On pensait par exemple que la Chine, en s'ouvrant au commerce international, notamment, allait forcément, inévitablement, devenir démocratique petit à petit. Et puis, on voit que c'est actuellement largement remis en question et qu'au contraire, ce sont les démocraties, en tout cas certaines des grandes démocraties, qui paraissent être de plus en plus ébranlées, qui paraissent être en crise, notamment du fait de tensions internes liées à plein de facteurs, mais en particulier une espèce de binarisation de la vie politique, des discours politiques, des opinions, liées notamment à la confusion autour de la notion de vérité, elle-même provenant de la structure de l'information, la structure des technologies, des réseaux sociaux, de l'évolution des médias, etc. Et puis de l'autre côté, on voit que certains des régimes autoritaires semblent avoir pris confiance en tout cas, semblent avoir le vent en poupe, et ont le sentiment d'être quelque part du bon côté de l'histoire. Et de fait, elles paraissent avoir certains avantages, comme une capacité à gérer les grandes masses, à bouger plus vite sur certains sujets, à penser long terme, certes de manière autoritaire. Mais voilà, il y a ce discours qui est dans l'air. Et par ailleurs, ces régimes-là s'affirment de plus en plus économiquement, politiquement, géopolitiquement. Voilà. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus, sur ce grand mouvement? Quelle est votre analyse de l'évolution de ces différentes formes d'organisation? Et de ce changement de rapport de force sur fond, donc, de crise, entre guillemets, des démocraties.
Alors, oui, j'ai un point de vue. Mais d'abord, en fait, je vois ce que vous voulez dire et je sais pourquoi la question est posée ainsi. Mais je pense que le problème, en fait, c'est qu'il faut la poser autrement. Voilà. Donc, déjà, démocratie. La démocratie, c'est juste un régime. C'est la façon dont on choisit son gouvernement. Et il est assez compliqué dans tout ce que vous m'avez dit, qui est la doxa, notamment on parlait de Fukuyama, donc la fin de l'histoire, qui est celle-là. C'est pas possible de comprendre un régime sans prendre en compte aussi l'État et la puissance de l'État. Or, parfois, alors aussi quand on reste à un niveau assez générique de discours, on parle c'est un État autocratique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Est-ce que c'est l'État qui est fort? Est-ce qu'on parle d'un État fort? Est-ce qu'il faut plutôt un État faible? Les pays anglo-saxons ont tendance à vouloir des États faibles parce qu'ils croient que l'État, c'est pas forcément bien. Donc ce que vous dites, en fait, implique plein de questions. Donc, si on parle de la démocratie qui est un régime, est-ce que on parle juste de la façon d'élire un gouvernement? Mais dans les pays qui sont soi-disant autocratiques, il y a aussi des élections. Donc, pourquoi serait-il, de quel droit les considérons-nous comme moins démocratiques que nous, par exemple, ou que l'Occident? Donc ça, ce sont des problématiques à résoudre. Alors, en fait, je m'étais assez intéressée parce qu'il y avait aussi un discours, certains ouvrages dans la même vague de pensée qui disaient que les démocraties conduisaient à la paix. Et donc, j'avais travaillé quelques années là-dessus. Et une fois qu'on part de la démocratie, ben c'est juste un système d'élection qui nous amène pas très loin. En fait, je pense que l'auteur le plus, si ça vous intéresse, l'auteur le plus intéressant à lire sur ces sujets, et pour moi, c'est Kant. Alors, je vais pas dire que c'est un auteur qui est très facile à lire, hein. Ce serait un mensonge. Il est assez compliqué à lire, mais c'est vraiment très intéressant. Et quand il parle de démocratie comme système politique, lui, il remonte au fait que la démocratie va être fondée sur le principe d'un droit universel. Mais parce qu'on a la croyance dans le fait que les hommes sont autonomes moralement et qu'ils sont égaux en droit et libres. Et donc, à partir de là, on peut dire que la démocratie va permettre une plus grande liberté au sein de lois qui vont assurer la liberté de chacun par rapport à la liberté de tous. Voilà. Et donc, là, on commence à être assez loin, en fait, de l'idée de, ah ben voilà, on va juste faire des élections et puis tout va aller bien pour le meilleur des mondes. Et donc, nous sommes supérieurs. Et donc, je ne suis pas sûre que nos pays, enfin notamment avec l'évolution quand on voit le laisser-faire, l'incivilité qui règne maître ou qui se développe, est-ce que on qualifie encore le système démocratique idéal tel que décrit par Kant? Alors certes, on vote, ça c'est sûr, mais est-ce que on est toujours en fait dans cette recherche morale et idéale en fait de la démocratie, qui est peut-être ce qui sous-tend une vraie démocratie, c'est le respect de l'autre, un respect universel moral. Et là, en fait, ça change en fait la vision. Si vous vous posez des questions comme ça, ça change la vision des choses. Et il y a plus de, enfin, en tout cas pour moi, c'est plus juste le droit de vote. Et en plus, de toute façon, le droit de vote, ça n'amène pas la paix, ça n'amène pas la sécurité, etc. Quand je faisais donc mon doctorat sur le Cambodge, on a la France a imposé le vote sur un pays qui était après la guerre, sur un pays dont l'État avait été fragilisé par la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Et la princesse Pinpong Yukontor avait fait une déclaration à l'Assemblée nationale. Alors, il faudrait vérifier la date, c'est 46 ou 49, bon, je me souviens pas de la date exacte, où elle disait « vous allez nous amener les fruits monstrueux de la démocratie ». Quand elle disait ça, c'est pas qu'elle ne voulait pas de démocratie, c'est que ce qu'elle disait, c'est que sur un pays dont l'État est fragilisé, donc où il n'y a plus de monopole des monopoles légitimes des moyens de violence, notamment, en fait, la démocratie, ça peut créer ou favoriser la corruption et la lutte de chacun ou de chaque petit clan les uns contre les autres.
Oui, donc, on l'a vu avec les ratés des Américains en Irak, en Afghanistan. Enfin, ça marche pas toujours, quoi. Ça marche même rarement, en fait.
Voilà. Et malheureusement, certains ont tendance à vouloir imposer à d'autres. En plus, c'est complètement absurde. On peut pas imposer la liberté à quelqu'un. Il faut qu'il la découvre. On peut pas imposer des élections. Il faut que les personnes les veuillent. Donc, on a tendance à imposer un système qui est peut-être pas adapté, non pas de pour des raisons culturelles, mais tout simplement parce que il y a pas la force de l'État pour garantir la démocratie, une démocratie qui fonctionne. Et donc si finalement ça débouche sur des guerres civiles et des atrocités, est-ce que la démocratie c'est bien? Et après donc ce que ça va faire, c'est que ça va entacher l'idéal démocratique.
Oui, et au-delà de la question du modèle de gouvernance, la question de la démocratie, il y a même une question plus profonde qui se joue autour de l'idée d'État-nation, puisqu'on voit bien que ces nations qui ont été pensées, conçues pour beaucoup, au 19e ou au 20e siècle, sont confrontées à un grand nombre de questionnements qui sont liés à la nouvelle structure des populations, qui provient notamment du fait des récentes migrations. Il y a des questions liées à ce que veut dire le vivre ensemble, quelles sont les cultures, qu'est-ce qui fait justement que des individus font nation. Il y a des problématiques aussi de recul de la fonction de l'État, soit parce qu'il y a des privatisations en fait de secteurs de l'économie et que donc c'est le privé qui prend la place de l'État, soit parce que par endroits ça va même être le crime organisé ou les mafias qui vont gérer des territoires, qui vont gérer l'économie de certains territoires entiers. Il y a aussi cette idée que ce fait que des entreprises aujourd'hui dites multinationales n'appartiennent plus vraiment à un État, que ce qu'on va appeler les grands capitaux sont partout et nulle part et pourtant pèsent considérablement sur la vie des États et puis sur la marche du monde. Donc, est-ce que c'est encore au sein des États, au sein des nations, que se joue le destin des civilisations et que se joue le destin des sociétés humaines? Voilà. Comment est-ce que vous intégrez ça dans vos analyses?
Alors, moi, j'intègre ça. Alors, c'est une vaste question, passionnante. J'intègre ça, en fait, en essayant de modéliser qu'est-ce que l'État moderne, donc qui est l'État qu'on a depuis 1648, enfin, c'est la date qui est donnée, en modélisant aussi la nation, c'est pas forcément la même chose, et en prenant en compte que ce sont des systèmes qui vont changer, ou qui sont probablement en train de changer. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, et j'essaye de me poser la question de savoir comment ils peuvent changer et quand. Alors, je crois effectivement qu'on est dans une période de transition au niveau de l'unité principale de compréhension du monde politique. Mon hypothèse est que ça serait probablement un changement qui serait soit de l'amplitude de celui qu'on a connu, alors pour la France, pour le passage des Carolingiens aux Capétiens, par exemple, ou encore plus de l'effondrement de l'Empire romain aux Mérovingiens. Donc, alors après, il faudrait beaucoup de chercheurs.
Ça, c'est où? C'est en Europe spécialement ou aux États-Unis aussi?
Oui, ça c'est... disons que je prends des référentiels, en fait, qui me permettent de me dire, voilà, si j'avais les financements ou les fonds pour pouvoir étudier, parce que malheureusement, parfois, ça arrive là, plus avant cette transition, voilà où j'irais chercher... des éléments de comparaison qui seront peut-être faux, hein, je fais peut-être des hypothèses qui sont fausses, voilà ce que j'irai regarder pour avoir une certaine idée.
Oui, donc il y a une sorte d'idée de fin de régime, comme quelque chose qui ne fonctionne plus.
C'est beaucoup plus grave que la fin du régime, parce que la fin d'un régime, c'est juste la fin de la façon dont vous élisez votre
fin
gouvernement. Là, c'est vraiment le fondement de notre organisation politique telle qu'elle a essaimé à travers le monde qui change. Donc peut-être que on va devoir retrouver des éléments beaucoup plus petits, enfin en termes de taille, hein, qu'on va revenir. C'est Hedley Bull, donc dans son livre sur la société anarchique, qui parlait d'un nouveau Moyen Âge. Donc on peut très bien arriver à des systèmes où on a des éléments beaucoup plus petits au niveau de la commune ou de plusieurs communes, etc., avec différents types de pouvoirs. Ah bah, on peut très bien avoir encore un pouvoir central au niveau d'un État, ou pas d'ailleurs. On peut aussi avoir des zones grises où on a des compétitions entre groupes criminels, groupes djihadistes, pour ne citer que. Mais de toute façon, il va y avoir cette compétition pour les ressources. Donc, c'est comment on va s'organiser et le système qui fonctionnera finira. Enfin, si l'histoire est un bon enseignant, le système qui fonctionnera en fait finira par essaimer en fait au niveau probablement au niveau mondial. Donc, mais ça sera un système qui permettra la survie des gens qui habitent ce système. Voilà.
Mais à quel niveau est-ce que vous pensez que ça craque concrètement aujourd'hui? Puisqu'on voit bien qu'il y a toutes sortes de tensions. Il y a des tensions liées à l'écologie et au climat, il y a des tensions liées aux ressources, à l'énergie, à l'eau. Mais dans un État européen, et on peut prendre la France en particulier, évidemment, mais si en se rappelant que chaque cas est différent, pour bien comprendre comment vous voyez les choses en regardant de plus près sur du concret, donc, où est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est au niveau de la représentation de l'État? Est-ce que c'est au niveau de la qualité des institutions, de la qualité de la démocratie, de la santé de la démocratie? Est-ce que c'est dans la capacité d'anticipation de ces institutions? Est-ce que c'est dans l'accès stratégique, donc comme on l'a dit, aux ressources, dans la capacité à se défendre, dans les récits qui prennent le pas sur les autres et qui finissent par dominer une société? Est-ce que c'est lié au fait que les personnes qui vivent sur un même territoire ne sont absolument plus d'accord sur la trajectoire à suivre? Voilà, il y a plein d'hypothèses. Vous, comment est-ce que vous observez ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est mal embarqué?
Ben, tout simplement, là où les gens protestent, c'est généralement qu'il y a problème. Enfin, donc, la crise des agriculteurs, puisque vous me parlez de la France, si on prend les gilets jaunes, la crise des agriculteurs, c'est que ça signifie, c'est un symptôme qu'il y a un problème majeur. De toute façon, quand les gens dont notre survie dépend directement, donc les agriculteurs, ceux qui cultivent la terre, qui vont nous donner à manger, ne peuvent plus eux-mêmes survivre, c'est que, en termes de bon sens, c'est qu'il y a problème. Voilà. Si on peut plus se chauffer, si on peut plus respirer parce qu'il y a trop de pollution, donc si nos besoins fondamentaux ne sont pas remplis, je suis désolée, je finis par répéter toujours un peu la même chose, mais c'est que il y a problème. Voilà, pour moi c'est ça. On est revenu, à force de pas vouloir le voir, on est revenu à des problèmes fondamentaux qu'on avait oubliés. C'est-à-dire que à force de se préoccuper que je pense de consommation ou de choses qui sont pas forcément vitales, ben on a oublié le vital. Voilà. Mais c'est aussi ce que dit Maslow, hein, quand il dit qu'on passe d'un niveau à l'autre, on commet l'erreur souvent d'oublier les niveaux précédents. Donc peut-être qu'au niveau collectif, ça sera approuvé, mais peut-être qu'au niveau collectif, il y a aussi une espèce de pyramide de Maslow qui joue. Mais vraiment, pour moi, avoir des catégories, des populations qui vont mettre leur vie en danger parce qu'ils ne peuvent plus survivre, ça, c'est un signe très grave. En fait, de problèmes. Et là, on n'est pas dans le signal faible. Là, on est vraiment dans le signal fort.
Pour élargir à l'international, on a parlé de la montée de la Chine, on a parlé des tensions avec les États-Unis, on peut parler du Moyen-Orient, évidemment de la Russie. Qu'est-ce qui, selon vous, est en train d'émerger, qu'il nous faut vraiment comprendre pour mieux appréhender cette nouvelle dynamique, ces cartes qui sont en train d'être rebattues de manière presque unanime? Au niveau géopolitique, est-ce que vous avez une grille d'analyse particulière quand vous parlez aux entreprises ou quand vous parlez au gouvernement, aux institutions avec lesquelles vous travaillez pour les aider à comprendre ce qui est en train de se jouer sur la scène internationale?
C'est qu'il faut revenir. Je pense qu'il faut vraiment revenir à des notions fondamentales d'intérêt national. Il faut vraiment penser que le monde peut être un monde violent, enfin, est un monde violent et un monde dangereux, que la survie, c'est importante, qu'il faut penser en termes stratégiques, il faut arrêter, ça c'est vrai surtout pour la France, de déblatérer en permanence sur qui on est, ça je pense que c'est pas très bon.
C'est-à-dire
on n'est jamais fier de ce qu'on a fait, ou de notre histoire, de qui on est, etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Enfin, si j'ai une petite idée, mais l'Occident, je prends pas en compte là les États-Unis, mais l'Occident a tendance, je pense, depuis la Première Guerre mondiale, qui a été un vrai choc mental, a tendance à se considérer comme mauvais, pas bien, on a tort, tout ce qu'on fait c'est mal, etc. Bon, je grossis un peu le trait, je caricature, mais non, c'est pas vrai. On a fait collectivement, on a fait des erreurs, on a essayé d'avancer, etc. Mais on a aussi plein de belles choses. Et en tout cas, ça a construit une force collective. Je pense que nos sociétés, les sociétés, le substrat des sociétés européennes sont forts de par justement tous les aléas, toutes les difficultés qu'ils ont vécues, toutes les belles choses quand vous regardez les cathédrales, la musique, etc. On a réussi collectivement aussi des très belles choses. Donc je pense que on a les capacités pour aller plus loin, mais il faut arrêter de s'auto-flageller en permanence en disant qu'on n'est pas bien, tout ce qu'on fait c'est mal, etc. Pardon.
Le récit décliniste, donc, en gros.
Voilà, c'est ça. Il faut arrêter de penser que c'est le déclin, c'est fichu. Oui, l'Asie, c'est les pays asiatiques. Il y a plein de choses fascinantes, extraordinaires, etc. Mais peut-être que justement, le futur, idéalement, ça serait de prendre le meilleur de toutes les civilisations, si on peut. Mais là, bon, là, je suis vraiment dans la recherche d'idées pour trouver des réponses. Mais vraiment, je pense qu'il est important de repenser en termes d'intérêt national et de remettre du bon sens aussi et du respect de l'autre. Alors ça, c'est plus au niveau individuel dans les sociétés. Mais j'ai le droit de tout faire, tous mes 68 et tout, ça, je pense que ça marche pas très bien.
Mais ça veut dire quoi? Ça se fait à quel niveau? Si on prend le défi des nations européennes, la question se pose de savoir à quelle échelle ça se fait. Est-ce que ça peut se faire à l'intérieur du cadre européen tel qu'il est? Ou alors est-ce que ça rejoint le discours de certaines et certains qui vont dire que ça ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une nation, d'un état-nation, c'est-à-dire avec une vraie communauté culturelle, une vraie communauté de langue, etc. Et ça nous amène à quoi, en fait? Ça nous amène à quelle question? Pour bien comprendre, en fait, les tensions et ce qui peut être, selon vous, considéré comme une faiblesse ou comme des forces, qu'est-ce qui est en train de poser un défi majeur aux nations européennes, par exemple, pour rester sur l'Europe? Est-ce que c'est le manque d'énergie, le manque de ressources? Est-ce que c'est le vieillissement de la population? Est-ce que c'est un certain manque peut-être de solidarité à l'intérieur des peuples? Est-ce que c'est justement des systèmes de gouvernement et de gouvernance qui ne fonctionnent plus? Un manque de représentativité? Est-ce que c'est l'institution européenne? Voilà, pour bien comprendre votre point de vue là-dessus.
Ben, je pense que c'est l'ensemble et c'est la convergence, pour reprendre ce que disait Jean-Michel, la fusion en fait de tous ces problèmes. C'est compliqué. En fait, il faut trouver une autre façon de vivre dans ce monde qu'on a abîmé, tout en le réparant. Donc ça, c'est extrêmement compliqué et c'est une approche différente par rapport à ce qu'on nous a inculqué, en tout cas ces 20 dernières années où tout va bien, où tout est facile, où il n'y a pas de problème. Je me souviens d'avoir eu des conversations ne serait-ce que 5-6 ans avec quelqu'un, on parlait de la Libye, une dame qui travaillait dans la pub. Et donc elle me demandait ce que je faisais, je lui disais moi ce qui m'intéresse c'est la guerre. Elle me disait mais c'est complètement, c'est tout juste, elle m'a pas dit que j'étais idiote. De travailler sur un sujet qui était complètement fini, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre et qu'elle le savait bien parce qu'elle faisait de la pub. Cette approche, en fait, c'est pas très constructive. Donc, il faut remettre du bon sens. Il faut, je pense, aussi revaloriser la connaissance, prendre le temps d'étudier ou d'analyser un problème. On peut pas avoir toutes les réponses tout de suite. Donc la question que vous me posez, si j'avais la réponse, ça serait très bien. En fait, je crois que c'est quelque chose qui va se construire de façon par des processus. Aussi bien, alors si je reprends Toynbee, ça sera probablement un petit groupe qui va avoir la bonne idée et la bonne approche. Alors quand je dis petit groupe, ça sera peut-être un pays, hein. Si on est plus dans l'intelligence collective, et ben ça va être chacun va y réfléchir et amener sa pierre à l'édifice. Mais il faut, en tant qu'humain, on trouve des solutions à ces problématiques.
Est-ce qu'on a un risque sérieux de retour de la violence dans nos pays? Voilà, ça a été un peu oublié comme paramètre, même si évidemment la violence est toujours présente sous une forme ou une autre. Et ça fait toujours partie de cette dynamique fondamentale dont on a parlé, et on le constate avec le retour de la guerre en Europe de l'Est, et avec toutes les questions que ça ouvre, notamment dans l'actualité, hein, sur la place de la France dans ce conflit et quelle doit être la posture. Dans vos scénarios, est-ce que c'est une composante fondamentale, même si évidemment on sait que vous avez un biais par rapport à ces sujets-là, est-ce que c'est un ingrédient clé pour penser à l'avenir?
Oui. Bah, j'allais dire, bah oui, bien sûr. enfin pour moi c'est évident, c'est que si par exemple dans un pays, qu'est-ce qui garantit fondamentalement, il y a deux choses qui vont garantir, enfin en caricaturant encore un peu, le fait qu'il n'y ait pas de violence, c'est d'une part les normes sociales, donc les tabous, la culture, etc. Et d'autre part, sont les moyens légitimes des forces de violence de l'État. Donc, si jamais vous êtes dans un pays où ce monopole légitime des moyens de violence n'est plus respecté, ou si on lui fournit pas les armes, ou s'il a des commissariats qui ne sont pas bien et qui peut pas faire son travail, ou si la justice libère trop rapidement des meurtriers ou des délinquants ou des gens violents. Donc si cet aspect en fait de l'État ne fonctionne plus, bah automatiquement vous allez avoir une multiplication de la violence.
On voit par exemple ce qui se passe en Haïti presque en direct.
Alors en Haïti, voilà, c'est en Haïti, en Somalie, ça c'est un sont des pays où il n'y a plus d'État. Et donc ça devient c'est l'enfer. C'est le monde est, pour citer Hobbes, le monde est brutish, nasty and short. Enfin, life is brutish, nasty and short. Donc, brut, horrible et courte. Donc, c'est la violence de tout le monde contre tout le monde. Donc, si c'est pour ça que les policiers sont tellement importants, entre autres. Hein. Il y a plein de gens importants, mais les policiers sont fondamentaux. C'est eux qui vont garantir la paix civile à l'intérieur. Et les militaires, ils garantissent la paix par rapport à l'extérieur. Mais ce sont des éléments fondamentaux. L'autre aspect, c'est les normes, puisqu'on peut pas diriger ou un pays peut pas vivre avec un policier derrière chaque citoyen. Mais donc, vous avez les normes et dans lesquelles on est socialisé par la famille et à travers l'école, notamment. Mais aussi par la culture, etc. Et donc, et les normes, si vous avez des normes qui favorisent une vie harmonieuse et paisible et qui, eh ben, vous allez avoir une vie plutôt harmonieuse et paisible. Mais quand les normes disparaissent, donc quand l'incivilité, par exemple, est acceptée, à ce moment-là, ben, ça va générer pratiquement automatiquement plus de violence. Voilà. Donc les deux, je pense que pour moi, sont les deux éléments principaux.
Oui, je ne sais plus exactement où j'avais lu ça, mais apparemment, on pourrait corréler très fortement le niveau d'évolution d'une société avec son niveau d'acceptation de la violence. Donc en gros, plus l'acceptation de la violence baisse, plus on peut dire qu'une société, entre guillemets, est civilisée. Et qu'à partir du moment où l'acceptation de la violence recommence à augmenter, on doit s'en inquiéter.
Alors après, pour revenir à ce que vous disiez un moment sur certains systèmes religieux, il peut y avoir aussi une violence qui est non dite. Et ça, c'est pas forcément correct dans un sens conscient du terme. Il faut pas non plus que la norme force la violence sur les individus.
Alors, on arrive aux questions de fin. Vous travaillez régulièrement avec les entreprises. Je voudrais savoir quelle est votre perception du niveau de maturité des gens avec qui vous travaillez sur ces sujets-là. Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez ont des angles morts? Il y a des choses vraiment essentielles qu'elles ne voient pas. Et qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce que vous pensez que globalement, les dirigeants, ceux qui prennent des décisions stratégiques, ont suffisamment compris les dynamiques actuelles et ce qui vient?
Alors, comment je travaille avec mes clients? En fait, je reboucle sur mon grande approche méthodologique que j'avais donnée au départ. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est connaître l'entreprise. Alors, je leur demande quel est leur budget, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent faire de l'anticipation, de la prospective, pour réussir quoi, ce qu'ils fabriquent, etc. Ou ce qu'ils font, quelles sont leurs missions. Et à partir de là, on définit une question qui est bornée et puis après on déroule tout simplement entre guillemets la méthodologie pour avoir à la fin des scénarios, si c'est ce que l'entreprise veut, des scénarios éventuellement probabilisés et puis on peut les suivre. Voilà, donc ça c'est la méthode qui est toute bête dirais-je, mais qui peut s'appliquer à chaque problématique et à chaque agent ou acteur. Alors, sur les entreprises, moi, je pense que malheureusement, elles ne prennent pas assez en compte la géopolitique. Enfin, la géopolitique et les problématiques de politique. C'est-à-dire que bien souvent, je suppose du fait de l'approche par les risques, de ce qu'on leur a vendu, en fait, alors c'est tout à fait nécessaire hein, de regarder le contexte légal, l'évolution légale dans les pays dans lesquels ces entreprises travaillent, etc. Et c'est tout à fait juste et important. Mais par contre, elles ont tendance à avoir peur ou à sous-estimer ou à se tenir éloignées du risque géopolitique. Du risque géopolitique et politique, mais vraiment dans le sens de l'organisation des sociétés. Et aussi, elles risquent de ne pas anticiper les problèmes sur l'énergie, etc. Et je pense que c'est dommage. Alors, je sais pas pourquoi, je crois parce que...
Oui, c'est un peu dommage.
Oui, mais c'est vraiment...
C'est quoi? C'est le manque de temps, le manque de volonté, le manque d'information?
Alors, ça va varier en fonction du chef d'entreprise ou de l'équipe. Mais il peut y avoir, ou il y a eu quelque chose comme, bah, de toute façon, je gagne de l'argent, donc je suis supérieur à tout le monde, donc c'est pas la peine, je vais pas essayer de comprendre d'autrice, ça va durer pour toujours. Ou, oh là là, ça me fait peur, même si les gens ne lisent pas, je n'y comprends rien, donc je vais pas le regarder. Donc ça, c'est la politique de l'autruche. Ou, de toute façon, on n'y peut rien, donc je verrai bien quand ça m'arrivera. Les trois approches sont plutôt contre-productives, je pense, parce que il y a aucune entreprise qui est trop grande pour ne pas subir, enfin qui va pas perdre des plumes quand il y a des risques géopolitiques. Si et même quand on est une petite entreprise, on peut aussi, alors on va pas pouvoir éviter le risque géopolitique, mais par contre, si on se souvient du fait qu'on n'essaye pas d'éviter la menace, mais qu'on essaye d'éviter la surprise, et donc on se prépare à ce qui va venir. Et là, on peut éventuellement mettre en place des stratégies ou commencer à chercher des stratégies, pas forcément d'évitement, mais d'accommodation du danger qui risque de se matérialiser. Voilà. Et après, en termes, bon, alors après, il y a une question de budget, mais j'ai un rêve. Enfin, c'est peut-être pas un rêve, mais par exemple, pour les petites entreprises dont qui ont peut-être pas les moyens ou même en ressources humaines aussi de faire ça, on peut très bien imaginer des systèmes mutualisés, j'en sais rien moi, au niveau des chambres de commerce ou des régions ou de ce qu'on veut, mais il n'y a pas de fatalité en fait au fait que un événement politique ou géopolitique va avoir un effet très adverse sur un acteur. Voilà, il faut essayer de lutter contre ce sentiment de fatalité ou d'évitement, parce que il vaut mieux regarder le problème quand il arrive et pour s'en prémunir plutôt que d'attendre la catastrophe.
Et au niveau de l'État, qu'est-ce qui est mal anticipé selon vous? Quels sont les angles morts?
Je passe sur cette question.
C'est quoi? Il y en a trop? Ça nous embarque trop loin?
Non, c'est aussi, comme je travaille aussi avec les États, c'est compliqué de répondre parce que sur certaines choses il y a beaucoup de confidentialité donc je peux pas répondre et puis je pense qu'on a fait mieux en général. Après, pour avoir une vraie réponse détaillée, informée, etc., il faudrait faire des vraies études de l'intérieur. Alors j'en ai fait certaines, mais à ce moment-là je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire dans l'entre.
Les instances en France dédié à l'anticipation au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée.
Oui, au niveau de l'armée, bien. Au niveau de l'armée, oui, je suis sûre. Au niveau du gouvernement, j'espère. Je sais qu'il y en avait. Après, les systèmes, si vous voulez, les systèmes changent. Donc, si vous faites des études, par exemple, enfin, une étude, un rapport, enfin, par exemple, sur les capacités d'anticipation et d'alerte précoce d'un État quelconque, d'un pays quelconque, en fait, il faut vraiment aller interviewer les gens, voir comment ça se passe, ce qu'on fait, qui fait quoi, quelles sont les interactions, etc. Et les choses vont changer, en fait, en fonction du temps. Donc, au niveau des instances, au niveau de l'OCDE, il y a des réseaux de gestion des risques avec les différents membres des États, où il y a des réseaux de prospective. La Commission européenne a mis en place un réseau au niveau des États membres. Il y a du Strategic Foresight qui est promu au niveau du secrétariat général, c'est un chief executive. Enfin bon, ils ont des rapports, etc. Il y a un effort qui est fait. C'est fondamental qu'il soit fait. Après, il faudrait que je vous fasse une étude récente, en fait, sur les capacités, la façon dont ça marche, etc. Mais si je le faisais, ben, je pourrais pas en parler, donc, probablement. Donc voilà.
À titre individuel, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut mieux anticiper ce qui vient? Quels sont les grands sujets qui concernent l'échelle individuelle? Parce qu'il y a évidemment plein de choses qui nous échappent. Ce qui se passe au niveau du monde, au niveau de l'État, au niveau international, etc. Ça veut dire quoi la prospective pour un individu, pour les auditeurs? Quels sont les grands sujets, les grands domaines à regarder?
Il faut s'intéresser au reste du monde et aux autres. Il faut anticiper le fait que, les années à venir risquent d'être pleines de défis. Et peut-être commencer à se préoccuper de savoir comment les résoudre. Alors au niveau individuel, c'est plus compliqué, mais il y a toute une mouvance de gens qui sont dans dans le survivalisme. Donc ça peut être des expériences à mener. Alors je dis pas qu'il faut être survivaliste, mais surtout c'est essayer de comprendre ce qui se passe en lisant. Tout ce qui est les reels, TikTok, les une minute d'explication par on ne sait qui, moi j'aurais tendance à déconseiller, parce que à part abîmer votre cerveau, ça va pas faire grand chose. Mais lire, essayer de se poser des questions, se poser la question de pourquoi, comment, et puis utiliser le bon sens aussi parfois, et pas être dans le déni. Voilà. Je dirais que sont des choses. Oui. Alors après, c'est vrai que ça peut être écrasant en fait de voir plein de mauvaises nouvelles, mais ne pas regarder les mauvaises nouvelles ne va pas faire que les mauvaises nouvelles partent. Donc il y a toute une mouvance de, enfin, un courant qui dit ah oui, il faut fermer la télévision, ça m'intéresse pas, c'est que des choses négatives, etc. Ou la télévision ou les journaux ou X ou Facebook ou ce que vous voulez. En fait, certes, de temps en temps, il faut peut-être faire des pauses, mais en même temps, ne pas prendre en compte ce qui est négatif ne veut pas dire qu'on va pas être atteint par ce qui est négatif. Il vaut mieux en fait le regarder et puis essayer de trouver comment, à son niveau, on peut soit s'en protéger, soit contribuer à faire que les choses soient moins mauvaises.
Dernière question. Deux livres à lire absolument dans une vie. Deux livres qui vous ont particulièrement marqué.
Alors, deux livres, c'est vraiment dur comme question, parce qu'il y en a tellement, tellement qui sont intéressants. Alors, je dirais qu'un livre qui m'a vraiment fait, dans mon travail, dans ma compréhension, qui m'a fait vraiment... Il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, je vais choisir celui-là, parce que je l'utilise beaucoup. C'est un livre d'un sociopolitologue, philosophe américain, Barrington Moore, qui s'appelle Injustice. Alors, Injustice, The Social Basis, je regarde mon livre, je vais le lire, ça va être mieux. The Social Basis of Obedience and Revolt. Voilà, je pense pas que ça ait été traduit en français, je n'en sais rien, mais c'est vraiment un livre génial. Et je dirais Les Contes de Fées. Alors, pourquoi Les Contes de Fées? Grimm, Perrault, tous. Parce que je pense que c'est une très bonne école de la vie. Ça donne de l'espoir, parce que généralement, ça finit bien. Mais c'est surtout que c'est un merveilleux point d'entrée dans l'histoire collective de sociétés, de corps sociaux, en fait, de peuples. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, souvent, quand je dois commencer à étudier un pays, en fait, je vais aussi lire leurs mythes et légendes ou leurs contes de fées et leurs contes. Et en plus, ça véhicule aussi des explications, des sens, ça donne du sens. Voilà.
Ok, merci beaucoup Hélène, merci pour votre temps et merci pour tous ces éclairages.
Non, merci Julien, c'était très intéressant.
À bientôt. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère que cette conversation vous aura plu, peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien Devorex, je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don, même un euro, ça compte, ça me permet de financer mes outils de production, par exemple. Et sinon, vous pouvez simplement parler de Sismique autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismique sur les réseaux, vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets, ou encore vous procurer mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien » aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismique.fr comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
Changer le monde ? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.